Le journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est à la une l'inquiétude de certains candidats à la présidentielle. Les plus mal placés dans les sondages ont bien du mal à convaincre les banques de leur prêter de l'argent. Vous l'entendrez, plusieurs partis sont dans l'impasse pour la campagne à venir. France Inter a pu consulter le dernier avis du Conseil scientifique. Malgré l'amélioration de la situation sanitaire, les experts sont encore très très prudents. Le détail à suivre. Dans ce journal aussi, Olivier Dubois, otage depuis 6 mois au Mali, et les trouvailles du robot Persévérance sur la planète Mars.
Et à 7h45, vous serez avec nous pour le débat éco. Thomas Piketty, Dominique Seux, ce matin, quel avenir pour Facebook ?
France Inter.
Pour la campagne présidentielle aussi, c'est le nerf de la guerre.
Trouver suffisamment d'argent pour aller jusqu'au bout, c'est la préoccupation du moment pour plusieurs candidats à l'élection de 2022, notamment ceux qui sont les plus bas dans les sondages. Pour eux, ça peut devenir une vraie galère. La loi de 2017 pour la confiance dans la vie politique a durci les conditions de prêt par des particuliers ou des entreprises. Quant aux banques, elles sont très frileuses cet automne, Antoine Gignot.
Pour vous donner une réponse, nous attendons la suite de la campagne. Voilà le message envoyé par plusieurs banques à Frédéric Massot, responsable financier de la campagne d'Arnaud Montebourg. Son candidat est crédité pour l'instant de 2 à 5% d'intention de vote.
Le niveau dans les sondages est essentiel pour que les banquiers se prononcent. Ils ne se positionnent même pas sur les 5% qui est le seuil à partir duquel on a un remboursement des frais de campagne, mais ils se positionnent sur des niveaux qui sont parfois au-dessus de ces 5%.
S'ajoute à cette frilosité la lourdeur des dossiers étiquetés PPE, personnalités politiquement exposées, arbitrées au plus haut niveau des banques. Jean-Paul Garraud est le président de l'association de financement de la campagne de Marine Le Pen. Il explique qu'il a saisi cette semaine le médiateur du crédit.
Nous avons sollicité une 60aine d'établissements bancaires, que ce soit bien sûr en France ou dans l'Union européenne. Nous n'avons encore aucune réponse positive. Cela pose un problème évidemment majeur de fonctionnement de la démocratie.
En réponse, plusieurs responsables de partis plaident pour que l'État se porte garant des prêts bancaires. L'idée de créer une banque de la démocratie spécialiste du financement des campagnes électorales a été abandonnée en 2018.
Antoine Gignot, sur cette difficulté qu'ont certains partis à trouver des fonds, ça ne décourage pas tout le monde apparemment. Un nouveau parti doit voir le jour ce week-end, celui d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre rassemble ses soutiens à partir d'aujourd'hui dans sa ville du Havre et demain, il annoncera le nom de cette structure en présence de plusieurs députés LREM, même si l'initiative suscite la méfiance au sein d'En Marche. Édouard Philippe, lui, continue d'affirmer son soutien complet à Emmanuel Macron s'il se représente en 2022. Des agences d'intérim qui n'hésitent pas à écarter les profils non européens parmi leurs candidatures. Le secteur du BTP, épinglé par SOS Racisme, qui dévoile ce matin les résultats d'une opération de testing. C'est une information France Inter. L'association a contacté 70 agences franciliennes spécialisées dans le bâtiment. Près d'une sur deux acceptent de discriminer certains travailleurs et ne respectent donc pas la loi. On va y revenir en détail dans le journal de 8h.
Le gouvernement, Alexis, est sur la même longueur d'onde que le Conseil scientifique.
Ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, mais cette fois, l'exécutif semble suivre à la lettre les préconisations des experts. Il n'y aura pas d'allègement du pass sanitaire avant le 15 novembre, au moins, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'a annoncé hier. Pas un hasard, hein. C'est peu ou prou ce que propose le Conseil scientifique dans son tout dernier avis que vous avez pu consulter, Véronique Julia.
Pour le Conseil scientifique, il y a en métropole une accalmie incontestable et un niveau de vaccination satisfaisant. L'espoir aussi de voir arriver bientôt des antiviraux par voie orale efficace. Pour autant, beaucoup de menaces et d'interrogations pèsent encore sur les semaines à venir. L'émergence possible de nouveaux variants, l'hiver propice à davantage de transmission, le relâchement des mesures barrières, le suivi de l'épidémie qui risque d'être plus compliqué avec le déremboursement des tests mi-octobre pour les non-vaccinés, la vaccination encore insuffisante des plus fragiles et une campagne vaccinale, pour le rappel, qui démarre un peu timidement. Parallèlement, les bronchiolites arrivent en force à l'hôpital, les soignants sont fatigués et la prise en charge des pathologies hors Covid a pris du retard. Dans ce contexte, le Conseil estime que le pass ne doit pas être abandonné dès maintenant. Si on veut éviter une reprise épidémique ou au moins limiter la taille d'un nouveau pic, on ne doit rien lâcher avant le 15 novembre. Sur les modalités de levée du pass passe sanitaire, le Conseil écarte plutôt l'idée d'une sortie différenciée par région ou par département. En revanche, deux possibilités. La levée pourrait être globale ou limitée à certains lieux considérés comme moins à risque.
Et puis c'est aujourd'hui que la Guadeloupe entame son déconfinement après 2 mois sous cloche. Plus de limites de déplacement et réouverture des établissements recevant du public. Faut-il lever le secret de la confession en cas d'abus sexuels? Le débat n'en finit pas à coup d'échanges à distance ces dernières heures entre le ministre de l'Intérieur et le patron des évêques de France. Oui, la loi de la République s'impose toujours aux lois des églises, estime Gérald Darmanin. Après les propos polémiques d'Éric de Moulin-Beaufort, ils se rencontreront mardi prochain place Beauvau. En attendant, les fidèles catholiques se posent aussi la question, comme ces jeunes réunis hier soir à Angers pour échanger après la publication du rapport Sauvé. Lauriane Delanoë a pu assister à la discussion. Reportage.
Ils sont une quarantaine d'étudiants catholiques dans ce salon, en petits groupes, les uns sur des canapés, d'autres assis directement sur le parquet. Solveig interroge ses camarades.
Est-ce que vous pensez qu'il faut que les prêtres ou les religieux qui ont commis ces actes soient jugés genre de façon publique, ou que ce soit l'Église qui s'occupe du jugement de ces prêtres et ces religieux?
Public. Ils sont citoyens, donc ça doit être comme une autre personne.
Ça doit être traité par la justice des hommes.
Là, c'est Childéric, 21 ans, en école d'ingénieur. Il s'oppose aux autres sur un point, le secret de la confession.
Si on y touche un peu, on y touche entièrement.
En tant que personne humaine, pour protéger autrui, je trouverais ça normal, et même si ce n'est juste pour moi de la charité, que le prêtre ait le courage d'aller dire et à faire de la prévention, quoi.
Enfin... Qui juge si c'est suffisamment important ou non? Déjà, le prêtre en confession, il peut demander, voire exiger que la personne aille se dénoncer. Bon, elle le fera peut-être pas.
Oui, c'est ça, voilà. Mais si elle sait qu'elle ne s'est pas dénoncée.
Prenons un exemple, un agresseur va dans un monastère où personne ne sait qui c'est, il se confesse, il s'en va. Le confesseur sera bien fort d'aller dire, ben voilà, il y a quelqu'un en confession qui m'a dit qu'il avait agressé, tu vois.
Ouais, à voir.
Tous retombent d'accord sur une proposition de Solveig.
Sensibiliser plus les familles, enfin, parce que nous on est sensibilisés en tant que jeunes, mais c'est vrai qu'au point de vue de la famille, pour les plus petits, moi j'ai entendu plein d'échos de familles qui, justement, parce que c'est un prêtre et que quand c'est un enfant en fait très petit, on se dit, bon, il dit n'importe quoi, du coup ça continue.
Selon ces étudiants, il faudrait donc afficher des messages pour les parents partout, dans les églises et les écoles.
Lauriane Delanoë, reportage à Angers pour Inter. 600 départs volontaires dès l'année prochaine. La direction d'Ariane Group doit détailler aujourd'hui son plan de suppression de postes en France et en Allemagne lors d'un comité social et économique. Pas de fermeture de site, mais des transferts de production. Un moteur d'Ariane 6 fabriqué jusque-là dans l'Eure va partir en Allemagne. Le constructeur subit la concurrence de l'américain SpaceX sur le marché des lanceurs. La justice française va-t-elle exiger le blocage des principaux sites pornographiques dans notre pays? Le tribunal de Paris rend sa décision aujourd'hui dans la procédure d'urgence lancée par des associations de protection de l'enfance. Elle dénonce l'accès bien trop facile des mineurs à ces plateformes qui ne vérifient pas l'âge des internautes. Il est aux mains d'un groupe djihadiste, le journaliste Olivier Dubois, otage au Mali depuis 6 mois, jour pour jour. Pour tenter de sensibiliser l'opinion publique à sa cause, sa famille et Reporters sans frontières lancent aujourd'hui une campagne de soutien dans 13 villes françaises, Paris, Marseille ou encore Fort-de-France, car l'attente devient de plus en plus insupportable pour sa famille, sa compagne, notamment Déborah Alaoui Al-Marsi.
C'est très compliqué parce qu'on a dû réapprendre un quotidien sans Olivier, on n'était pas préparé à ça. Nos enfants ont 5 et 13 ans. Ils ont chacun compris à leur manière. C'est vrai que les enfants posent beaucoup de questions et j'essaye toujours de leur répondre avec ce que j'appelle mon masque de clown. J'essaye toujours de les rassurer et de leur expliquer la situation avec les mots qu'ils peuvent comprendre et entendre. Je n'arrive pas à me préparer, comme tout le monde me le dit, à ce que ce soit long, parce que je vois pas comment on va pouvoir tous tenir comme ça aussi longtemps, parce que c'est vraiment très dur. Moi, depuis le premier jour, j'espère recevoir un appel qui me dit qu'Olivier est en route pour l'aéroport de Bamako. Je ne vis que pour ce jour-là. Je n'arrive pas à me projeter ni à envisager d'autres choses. Ma vie est en pause. On est tous en pause jusqu'au jour de sa libération.
La femme d'Olivier Dubois, à ce jour seul ressortissant français retenu en otage dans le monde. C'est un grand raout organisé régulièrement depuis 73, mais d'habitude entre chefs d'État et grands patrons. Pour la première fois, le sommet Afrique-France à Montpellier aujourd'hui ne réunit que des représentants de la société civile, aucun dirigeant à l'exception d'Emmanuel Macron. 3000 participants sont attendus, de jeunes entrepreneurs, des artistes, des sportifs africains du continent ou de la diaspora. Donald Trump tenterait-il de faire faire obstruction à l'enquête sur l'assaut contre le Capitole en janvier dernier. Selon plusieurs médias américains, les avocats de l'ancien président ont demandé à 4 ex-conseillers de Trump de ne pas coopérer avec la commission d'enquête parlementaire. Parmi eux, son chef de cabinet à la Maison-Blanche, Mark Meadows, ou encore Steve Bannon.
Persévérance commence à dévoiler les secrets de la planète rouge.
7 mois après l'arrivée du petit robot sur Mars, des chercheurs français détaillent dans la revue Science les premières observations qu'ils ont pu en tirer. Ils sont notamment à la recherche d'anciennes traces de vie. Eh bien, bonne nouvelle, ça se confirme, il y avait bien un lac, il y a des milliards d'années, un grand lac sur Mars, pile à l'endroit où l'astromobile s'est posé en février dernier, Boris Allier.
Les scientifiques l'ont baptisé G0. Cet énorme cratère a été choisi pour poser Persévérance, car vu de haut, les chercheurs se doutaient bien qu'il s'agissait d'un ancien lac. La caméra du rover, mise au point par Sylvestre Maurice, planétologue à Toulouse, est venue affiner leurs observations.
Dès qu'on se pose, on met en route nos caméras, on met en route nos lasers, on vise une butte très loin et l'image est spectaculaire, ça nous saute à la figure. On voit l'histoire d'un lac qui se remplit via un delta et avec un écoulement catastrophique qui viendra par la suite. Ce lac est un lac fermé qui fait à peu près 35 km de diamètre. C'est très grand, hein, c'est presque 2 fois la superficie du lac Léman.
Alors contrairement au lac Léman, l'eau de G0 a disparu il y a plus de 3 milliards d'années. Mais les sédiments sont une mine d'or pour les planétologues.
On va reprendre la route là très bientôt et aller vers le delta, justement vers ces blocs que l'on a vus. Et donc on va voir des choses qui sont plutôt magmatiques, des choses qui sont plutôt sédimentaires. Je vous dis, c'est vraiment un livre ouvert de l'histoire des écoulements d'eau sur Mars en fait.
Persévérance a déjà collecté 3 échantillons de roches martiennes et les scientifiques espèrent en ramener au moins une 20aine sur Terre dans une 10aine d'années.
Une 10aine d'années, on espère que nos amis belges n'auront pas à attendre tout ce temps pour battre les Bleus en football. Énorme déception hier soir pour les Diables Rouges. Défaite 3-2 par l'équipe de France en Ligue des Nations alors qu'ils ont longtemps mené au score. Nouvelle défaite donc 3 ans après le Mondial 2018. Quant aux hommes de Didier Deschamps, ils affronteront l'Espagne en finale dimanche.
On va en parler à Alex Vizorek. Merci Alexis Morel, à suivre Thomas Legrand.